Europe Nuit,
Alexandre Lemaire.
Bonsoir. Avoir plus d'ambition pour le climat, c'est le credo d'Emmanuel Macron. Cet après-midi, devant les dirigeants mondiaux à la COP26, le président visait particulièrement les gros pollueurs, Chine et Russie en tête. Paris lève le pied ce soir dans le dossier des licences de pêche. Pas de sanctions pour la nuit contre le Royaume-Uni. Emmanuel Macron se donne la journée de demain pour discuter. Le mari et meurtrier présumé de Magali Blandin s'est suicidé en prison la nuit dernière. Trois personnes restent mises en examen dans ce dossier. On verra quelles sont les suites de l'enquête. Les ventes de voitures neuves font le grand plongeon, près d'un tiers en moins en un an. Stellantis, Renault et Volkswagen paient au prix fort la pénurie de semi-conducteurs. La météo, ça va souffler. Détail à suivre avec Marlène Duret. L'invité éco reviendra sur cette information Europe 1 avec Guylain d'Alençon, le PDG d'EO, qui développe avec BNP Paribas un projet d'encaissement des pourboires par carte bancaire. Et on verra les unes de la presse pour demain matin.
Europe 1.
Trois minutes. Comme les autres dirigeants réunis à la COP26 à Glasgow, Emmanuel Macron a eu 3 minutes pour convaincre de l'urgence d'agir contre le réchauffement climatique. Le chef de l'État appelle les plus gros pollueurs à faire plus. Premier visé, la Chine et la Russie, dont les présidents brillent par leur absence au sommet. Louise Salé, vous êtes à Glasgow pour Europe 1. Devant les dirigeants mondiaux, Louise, le président a montré de la pugnacité cet après-midi.
Oui, Emmanuel Macron se place clairement en leader européen et international. Il veut montrer la voie au risque de se fâcher avec des pays pollueurs comme la Chine ou les États-Unis. Dans son discours, le chef de l'État les pointe clairement du doigt.
La clé pour les 15 prochains jours ici, dans notre COP, est que les plus gros émetteurs, dont les stratégies nationales ne sont pas conformes, rehaussent leur ambition dans les 15 jours qui viennent. C'est le seul moyen de recrédibiliser notre stratégie est d'avoir des stratégies d'ici à 2030 qui permettent de rendre crédibles les 1,5 degrés Celsius.
Mais la crédibilité qu'Emmanuel Macron exige des autres peut lui jouer des tours. Les ONG françaises regrettent un discours qui manque d'honnêteté par rapport au retard de la France dans ses réductions d'émissions. Le pays est en effet loin d'avoir un plan d'action précis pour s'aligner sur l'objectif climat européen. Des activistes français ont manifesté ce matin devant les lieux de la COP26 pour pointer cette incohérence. Ils brandissaient à l'envers le portrait du président français.
Et parmi ces manifestants que vous avez rencontrés, Louise, on va entendre ce qu'Aurore Mathieu du réseau Action Climat reproche précisément à Emmanuel Macron.
Là, c'est pas vraiment une démarche constructive que de, en effet, rejeter la faute sur les autres, alors qu'on sait encore une fois que la France est responsable, on va dire historiquement, en grande partie des émissions, bien sûr avec d'autres pays, mais en attendant, une minorité de pays à l'échelle planétaire. Donc, il y a encore une fois un peu un déni de responsabilité, une volonté de pas trop s'attarder sur le passé qu'on entend souvent, mais qui est un peu problématique quand on arrive dans des sphères internationales où justement les actions qu'on a eues ont des répercussions sur les autres pays.
Aurore Mathieu du réseau Action Climat avec Louise Salé, envoyée spéciale d'Europe 1 à la COP26 à Glasgow. La reine d'Angleterre fait partie des absents à ce sommet. Ses médecins lui ont demandé de se reposer, mais depuis son lieu de convalescence à Windsor, Elisabeth II a adressé ce soir un message vidéo aux dirigeants mondiaux à la COP26 dans un tailleur évidemment de couleur verte. Elle les presse de faire cause commune contre le réchauffement climatique et de répondre à l'appel des générations futures. 24 heures de répit pour le Royaume-Uni. La France retient finalement son ultimatum dans le dossier brûlant des licences de pêche. Aucune mesure de rétorsion ce soir contre Londres. Emmanuel Macron se donne la journée de demain pour discuter avec Boris Johnson et la Commission européenne. Alexandre Chauveau.
Oui, car le président français ne veut pas compromettre les chances d'avancer dans ce dossier. Le chef de l'État indique ce soir avoir compris que le Royaume-Uni allait revenir vers la France demain avec une nouvelle proposition. Et par conséquent, il serait contre-productif selon lui de procéder aux mesures de rétorsion promises aux Anglais. Emmanuel Macron avait lancé un ultimatum à Boris Johnson hier. Si le Royaume-Uni n'accordait pas plus de licences de pêche aux bateaux français, alors les navires britanniques ne pourraient plus décharger leur cargaison dans les ports de l'Hexagone à compter de ce soir minuit. Des menaces jugées complètement déraisonnables par Liz Truss, la ministre des Affaires étrangères anglaise, qui demandait aujourd'hui à la France de les retirer. Jusqu'ici, chaque parti campait sur ses positions, mais la sortie de crise qui paraissait encore incertaine en fin d'après-midi a tout d'un coup un peu plus de chances de voir le jour. Emmanuel Macron avait prévenu, l'absence de réponse britannique aurait été considérée comme comme une fin de non-recevoir. Le dernier rebondissement en date prouve que le dialogue est en passe de reprendre, même si l'Élysée reste particulièrement vigilante à la proposition britannique à venir.
Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Le mari et meurtrier présumé de Magali Blandin s'est suicidé en prison. Jérôme Gaillard s'est pendu la nuit dernière dans sa cellule. Il avait avoué le meurtre de sa femme en février dernier près de Rennes. Magali Blandin l'avait quitté quelques mois plus tôt. L'affaire avait à l'époque secoué l'opinion. Le couple a 4 enfants et les parents de Jérôme Gaillard ont reconnu avoir aidé leur fils dans son projet criminel. Ils sont actuellement mis en examen et incarcérés, Charles Guyard.
Oui, et Jérôme Gaillard ne sera donc jamais jugé pour le meurtre de son épouse Magali Blandin. Incarcéré à Rennes depuis le 21 mars dernier dans l'attente de son procès, l'homme avait reconnu avoir tué la mère des 4 enfants du couple âgés de 4 à 14 ans, des enfants placés dans 3 familles d'accueil différentes en Ille-et-Vilaine. Son avocat, maître Jean-Guillaume Lemaintier.
Moi, Jérôme Gaillard, je l'ai eu au téléphone la semaine dernière. Il pleurait, il était épuisé. J'ai senti que ça pouvait basculer à n'importe quel moment. S'il est passé à l'acte, c'était une accumulation d'un certain nombre de choses. Et puis aussi, il voulait que ses enfants soient réunis sous le même toit pour supporter ce double trauma, la perte de leur mère et l'enfermement de leur papa. C'était son dernier combat, c'est ce qu'ils disaient, mes gamins.
Des enfants qui se retrouvent désormais totalement orphelins, mais aussi privés de leurs grands-parents paternels, placés en détention provisoire car ils sont soupçonnés d'avoir apporté un soutien logistique dans le projet criminel de Jérôme Gaillard. Si une complicité est avérée, ils devraient alors être jugés car le suicide de leur fils n'éteint pas toute l'action judiciaire dans ce dossier à leur encontre.
Charles Guyard, dans cette même région de Rennes, un chasseur de 69 ans mis en examen pour blessure involontaire. Avec son fusil de chasse, il a grièvement blessé un automobiliste âgé de 67 ans qui circulait samedi sur une route 4 voies entre Rennes et Nantes. La victime a été hospitalisée dans un état critique. Il n'y a quasiment plus d'espoir ce soir de retrouver vivants les 3 jeunes alpinistes français portés disparus depuis une semaine maintenant au Népal. Ils ont été surpris par une avalanche dans l'ascension d'un sommet de la région de l'Everest. Pour Nicolas Reynaud, président de la Fédération des clubs alpins et de montagne, c'est un choc. Ces alpinistes avaient une technique très éprouvée.
Les 3 disparus sont des personnes vraiment chevronnées, préparées pour ce genre d'expédition et pour ce genre d'ascension. Et mais malgré ça, on le sait, il y a toujours une part d'aléas. Et malheureusement, elle nous frappe et elle frappe bien sûr les proches des victimes de plein fouet. Aujourd'hui, on a envoyé plusieurs équipes, une équipe de secouristes qui a commencé les investigations sur le dépôt de l'avalanche, là où malheureusement les 3 alpinistes se trouvent. Et on commence à comprendre que c'était dans leur retraite et dans leur descente qu'ils se sont fait balayé par cette avalanche qui les a emportés. Donc on a retrouvé tout un tas de traces, de matériel sur la face. Malheureusement, oui, les chances de les retrouver vivants après plusieurs jours sous cette quantité de neige et de glace, il n'y a pas d'espoir. Ouais.
Nicolas Reynaud avec Yasmina Katou.
Europe Nuit. Alexandre Lemaire.
Le marché automobile français dégringole. Les derniers chiffres sont très mauvais. Les immatriculations de véhicules neufs ont chuté de plus de 30% en octobre par rapport à l'année dernière et même de 37% par rapport à 2019 avant la crise sanitaire. Emmanuel Dutheil, comment expliquer un tel décrochage ?
Eh bien, c'est très simple. Hein. Vous pouvez faire le test. Si vous allez en ce moment dans une concession automobile, on va vous dire « Oui, bien sûr, on peut vous vendre une voiture, mais vous allez devoir attendre 3, 6 et bien souvent 9 mois et souvent sur la quasi-totalité de la gamme, comme le révélait à la mi-journée sur l'antenne d'Europe 1 le patron de Citroën. Eh bien, c'est pour cela que les ventes de voitures sont en forte baisse, parce que tout simplement, on ne peut pas ou c'est compliqué de les acheter en ce moment. C'est dû à quoi ? C'est dû tout simplement à ce que l'on appelle la crise des semi-conducteurs, hein, toutes ces petites puces qui permettent aujourd'hui à nos voitures d'avancer et que les fabricants de puces n'arrivent pas tout simplement à produire en assez grand nombre. Et c'est ça qui explique actuellement la difficulté du marché des voitures neuves. Alors en revanche, même si c'est un petit peu moins vrai sur octobre, il y a un marché qui se porte très bien depuis le début de l'année. C'est le marché de l'occasion et notamment de ce qu'on appelle les occasions récentes. Là, c'est simple, hein, depuis le début de l'année, on est sur des ventes totalement historiques et ça chamboule bien évidemment tout le marché de l'automobile.
Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1. C'est une nouvelle arme qui était très attendue pour lutter contre les cancers du sein très agressifs qui se déclarent avant la ménopause. Le Trodelvis, le nom de ce traitement, est disponible depuis ce matin en France. Ce nouveau médicament qui conjugue une chimiothérapie et un anticorps ciblant directement la tumeur pourrait bien bénéficier à près de 600 patientes chaque année. Pour Delphine Loira, cancérologue à l'Institut Curie à Paris, l'efficacité de ce traitement est bien visible.
On on a un quasi doublement de la durée de la survie des patients sous Trodelvy par rapport à de la chimiothérapie classique. On a une survie qui passe de 6 mois à 12 mois, même si ça reste quelques mois. Le fait qu'on double la survie globale est vraiment un pas important en médecine. Il y a peu de molécules qui arrivent à ce résultat. Pour ce type de cancer du sein, on avait très peu de résultats positifs d'essais cliniques depuis plusieurs années. Donc c'était aussi pour ça que c'est très attendu. Et c'est une nouvelle façon d'administrer de la chimiothérapie. Le fait de cibler les cellules tumorales et d'apporter la chimiothérapie au plus près de la tumeur, ça permet finalement de concentrer la chimiothérapie au niveau de la tumeur et pas de la disperser dans tout l'organisme. Donc ça permet d'augmenter les quantités de chimiothérapie qu'on peut apporter sans avoir trop d'effets secondaires.
Le docteur Delphine Loira avec Afsaneh Sabouhi. Ce 1er novembre marque le début de la trêve hivernale des expulsions de logements en cas d'impayés. C'est un sursis, comme chaque année, indispensable aux ménages les plus précaires. Or, cette année en particulier, la Fondation Abbé Pierre redoute qu'une bombe à retardement n'explose à la fin de cette trêve. Conséquence de la crise sanitaire, Wilfried de Villers, la Fondation Abbé Pierre craint donc jusqu'à 40 000 expulsions l'année prochaine.
Il risque bien d'y avoir trois fois plus d'expulsions en 2022 que ces deux dernières années réunies. Voilà plusieurs mois que les mesures provisoires du gouvernement, comme l'extension de la trêve hivernale, permettent un gel des procédures pour certains impayés. Mais ces mesures, elles prennent fin cette année. Marie Rotan est responsable de la plateforme Allo Expulsion, gérée par la Fondation Abbé Pierre. Elle s'inquiète déjà de l'après-crise sanitaire.
On craint que ces expulsions-là ne soient reportées en partie sur l'année 2022. Et là, aujourd'hui, il y a des ménages qui se sont, ces derniers mois, retrouvés à la rue, à dormir dehors, à dormir dans leur voiture. Et on a eu des cas de femmes enceintes, de femmes avec des enfants en bas âge, de personnes âgées, d'une personne en situation de handicap. Voilà, toutes ces personnes-là se sont retrouvées dehors sans aucune solution.
L'organisation demande donc plus d'aide au logement pour les locataires et plus de fonds destinés aux bailleurs pour subventionner les impayés. Les 20 millions d'euros supplémentaires débloqués cette année par le ministère du Logement sont jugés bien insuffisants.
Wilfried de Villers. On se penche maintenant sur les rites funéraires en ce jour de la Toussaint à travers un livre qui propose un tour du monde des traditions pour accompagner ses proches dans la mort. Funèbre, c'est le nom de ce livre, est publié aux éditions du Trésor et Europe 1 a rencontré son autrice, Juliette Caz, une chercheuse et une youtubeuse spécialisée dans les rites funéraires, Marie Jiquel.
Et parmi ces rites, il y en a un qui intrigue particulièrement Juliette Caz et qui se déroule en ce moment en Bolivie.
Les gens viennent avec leur crâne qu'ils gardent à la maison, donc de leur famille ou non d'ailleurs, et ils viennent le faire bénir. Et donc c'est une journée un petit peu spéciale où on fait la fête autour des crânes domestiques. Et le but de ces crânes, c'est évidemment de porter chance. Et ça arrive des fois que certains crânes s'entendent pas avec leur propriétaire. Donc on a des histoires un petit peu comme ça, d'échanges de crânes jusqu'à ce qu'ils trouvent la bonne famille.
La fête des morts au Mexique, les funérailles musicale à la Nouvelle-Orléans, Juliette Caz tente ce tour du monde des cérémonies mortuaires qui paraissent plus gaies qu'en France.
La plupart des pays, ils ont un lien aux ancêtres qui est très différent d'une autre, c'est-à-dire qu'il y a une croyance dans l'ancestralité et les choses vont être faites pour les morts pour satisfaire ces ancêtres puisqu'on croit vraiment qu'ils sont encore là et ça, c'est visible dans énormément d'endroits dans le monde.
Le livre évoque enfin l'évolution technologique pour nous aider à surmonter un deuil, comme ces robots japonais équipés d'un écran représentant le visage d'un proche décédé.
Oui, alors ça, pour le coup, ça fait penser à une récente et célèbre série d'anticipation. Grande diversité, en tout cas, des rites funéraires autour de la planète. Merci Marie Jiquel. L'Italie perd l'un de ses grands gastronomes. Le père du tiramisu est mort. Il avait 93 ans. Ado Campeole avait découvert la recette par hasard, dit-on. Tiramisu, ça peut se traduire par « remonte-moi le moral ». Et c'est peut-être aussi pour ça, d'ailleurs, qu'il y a toujours un peu de place pour un tiramisu à la fin du repas. Retour gagnant pour Novak Djokovic après quasiment deux mois d'absence sur le circuit. Le numéro 1 mondial a dû encaisser une lourde désillusion après sa finale perdue de l'US Open. Mais cet après-midi, Djoko s'est offert une première victoire en double au tournoi de Bercy. Première mise en bouche avant les simples demain. Ce soir, en attendant, comme un retour à la vie d'avant, j'ai envie de dire, Bercy accueille sa première session nocturne avec du public. Session qui risque bien de se terminer au milieu de la nuit, Axel May.
Ah oui, parce que en principe, le dernier match devait commencer aux alentours de 21h et l'avant-dernier match sur le cours central n'est toujours pas terminé. Match entre Andy Murray, le revenant, lui qui s'était imposé en 2016, il avait été alors numéro 1 mondial, Andy Murray, 34 ans, face à l'Allemand Dominik Kapfer, 27 ans. On en est à 2h35 de jeu. C'est la troisième et dernière manche qui est en cours. 4-6 pour Kapfer dans la première manche, 7-5 dans la deuxième manche pour Murray, et puis 5 jeux partout dans la troisième manche. Et le public que vous entendez peut-être derrière moi est en train d'acclamer vraiment ces deux joueurs. Une ambiance, vous le disiez, un petit peu la vie d'avant. On a eu aussi alors d'autres matchs qui ont été fortement suivis. Sur un court annexe, Hugo Gaston, le Français issu des qualifications, 21 ans, est venu à bout de son compatriote Arthur Rinderknecht en 3-7. Et puis, on notera aussi la qualification d'Adrian Manarino aux dépens du géorgien Basilash Vili. Voilà, le public donc qui ensuite aura pouvoir avoir Benoît Paire face à un Espagnol, solide Espagnol d'ailleurs, puisqu'il s'agit de Pablo Carreño Busta. Mais avant Benoît Paire, il faut donc que ce match se termine. Autrement dit, et vous aviez raison de le signaler, hein, c'est au bout de la nuit ou en tout cas assez tardivement qu'on va aller ici à Bercy.
Bon, gardez les yeux ouverts, Axel. Merci Axel May du service des sports d'Europe 1 en direct des Masters 1000 de Paris-Bercy. Ils étaient le couple emblématique de la boxe. Tony Yoka et Estelle Mosley ont officialisé leur divorce hier soir. Ils s'étaient mariés il y a 3 ans et c'est Tony Yoka qui a annoncé la nouvelle sur Instagram. Le couple vivait en réalité séparé déjà depuis plusieurs mois. Le temps pour ce mardi, Marlène Duret, vous nous annoncez d'abord, Marlène, un gros coup de vent pour la nuit.
Oui, un coup de vent dans une région habituée au vent fort, au vent violent, mais quand même ça va souffler du côté du nord de la Corse. C'est ce vent de sud-ouest, le Libeccio, hein, qui va faire parler de lui. 130 km à l'heure attendu du côté de l'île Rousse ou du Cap Corse. Des pointes à 100 km à l'heure aussi dans les environs de Bastia sur le continent. Alors déjà, c'était le retour du beau temps en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il va se maintenir demain, hein, sur une grande partie de la région, en basse vallée du Rhône également, autour du golfe du Lion, dans le sud-ouest, hein, sud-Occitanie, sud-Aquitaine. Et puis on a cette perturbation qui va arriver déjà dans la nuit sur la côte aquitaine, la côte charentaise, et puis progressivement en cours de journée. Ces pluies poussées par un vent qui va se renforcer, ces pluies vont arroser progressivement le Poitou-Charentes, le nord de Midi-Pyrénées, le Limousin, le Berry, l'Auvergne, et ça va déborder un petit peu sur la région Rhône-Alpes. Sur le reste du pays, on parlera d'un ciel variable, changeant avec parfois des averses et de la pluie régulière, plutôt le matin dans les régions du nord-est et des Alpes. La neige qui va réapparaître également dans le Jura, les Alpes et le Massif central en moyenne montagne. Quant aux températures, le rafraîchissement, on va surtout le sentir pour à partir de jeudi. Hein. Bon. Elles vont baisser tout doucement. Bon, voilà, demain, on attend un petit 10 degrés à Metz, au meilleur de la journée. Hein. 11 à Lille et Dijon, 12 degrés à Orléans, à Thonon-les-Bains, au Creusot, 13 à Paris et Limoges. Il fera 14 degrés à Quiberon, 15 à Agen, Grenoble, Mâcon, 19 à Toulouse, ainsi qu'à Marseille, 20 degrés à Nice et 21 à Bastia.
Bon, c'est encore très clément tout ça pour une demi-novembre. Hein. Je ne sais pas si ces températures sont commentées à la COP26, mais...
Alors, oui, j'imagine que ce sera abordé.
Merci beaucoup Marlène, on vous retrouve à minuit pour un dernier point météo sur Europe 1. On va marquer une toute petite pause et dans une respiration, ce sera Top à Wall Street avec Didier Hamot. A tout de suite.
Du lundi au vendredi à 13h, retrouvez La France Bouge avec la Caisse d'Épargne, mobilisée pour être utile aux entrepreneurs et à l'économie. Caisse d'épargne, vous être utile.
Europe Nuit, informez-vous avec Alexandre Lemaire sur Europe 1.
Et comme promis, on retrouve Top à Wall Street avec Didier Hamot sur Europe 1. Bonsoir Didier.
Bonsoir Alexandre.
Lundi de Toussaint, mais toutes les places financières étaient tout de même ouvertes aujourd'hui. D'abord Wall Street qui commence la semaine sur de nouveaux sommets avec Tesla qui poursuit son envolée. Hein.
Oui, ça marchait. Les places financières marchaient très bien d'ailleurs, hein, puisqu'on bat des records un petit peu partout. Le Dow Jones gagne 0,26%, 35 913 points. Nouveau record aussi sur le Nasdaq américain. Plus 0,63%, 15 955 points. La vedette incontestée reste Tesla. Le fabricant de voitures électriques grimpe ce soir de 8,5% de nouveau. On est au plus haut, nouveau record historique. 1208,92 $. On respire quand même sur d'autres technologies qui avaient beaucoup progressé ces derniers temps. Apple, moins 0,5%. Microsoft, moins 0,7% ce soir. Amazon, moins 1,6%. Il y a quand même Facebook Meta, donc plus 2%, $330, oui.
C'est le nouveau nom.
Appelons un chat un chat. Le pétrole monte de 0,9% à $84 le baril ce soir. Avant la réunion de l'OPEP, ce sera jeudi, alors que les pays producteurs devraient encore se montrer peu enclins à ouvrir les vannes de leur production. Ça donne donc des cours toujours très tendus sur le pétrole. Exxon en profite encore, plus 1,8%, le groupe pétrolier. $65.63. L'euro campe plus calmement ce soir sur les 1,16 face au dollar.
La Bourse de Paris s'est rapprochée de ses records, elle, dans un marché plutôt calme.
Quasiment, oui, 6900 points. On est à 6893 points, plus 0,92%. Une belle hausse dans un marché calme, oui, évidemment, puisque le 1er novembre, on tournait quand même au ralenti. Mais certains groupes industriels, quand même, remontent encore. Chargeurs, Mersen en hausse de 4%. Holcim, plus 2% avec Saint-Gobain, Renault ou ArcelorMittal, l'aciériste, proche des 30 euros ce soir. Alors que les États-Unis et l'Union européenne ont enterré la hache de guerre dans le bras de fer qui les opposait sur les droits de douane mis en place par Donald Trump, c'était en 2018.
L'exception du jour, Didier, Worldline continue de s'enfoncer avec une nouvelle baisse de plus de 3%.
Encore en baisse, moins 3,5%, 48,59€. Le spécialiste du paiement à distance poursuit sa chute après des résultats et des prévisions décevantes annoncées la semaine dernière. Worldline, effectivement, encore en baisse ce soir de 3,5%. C'est un petit peu le couac de la journée. Les autres places financières sont en hausse, donc partout. Le DAX à Francfort, plus 0,7. Madrid, plus 1,5%. Londres, plus 0,7 aussi. Et puis le CAC 40 en hausse, donc de 0,92%. 6893 points.
Merci Didier Hameau de Boursier.com.
La Caisse d'épargne vous présente l'invité éco. Caisse d'épargne, vous êtes utile.
Et c'est une information européenne. BNP Paribas développe avec EO une solution d'encaissement des pourboires par carte bancaire. L'invité éco ce soir donc, Guylain d'Alençon, le PDG d'EO, il répond à Emmanuel Dutheil.
Bonsoir Guylain d'Alençon.
Bonsoir Emmanuel Dutheil.
Vous êtes le PDG d'EO, on ne vous connaît pas, quoique, par exemple quand on est à la caisse du supermarché et qu'on nous demande est-ce que vous voulez arrondir pour pouvoir faire un don à une association, eh bien parfois c'est une des solutions que vous avez développées. Et justement, si nous avons voulu être en ligne avec vous ce soir, c'est parce que vous développez avec BNP Paribas une solution d'encaissement des pourboires par carte bancaire. C'est une information Europe 1, ça va être annoncé officiellement demain matin. Première question du coup, toute simple, Guylain d'Alençon, comment ça va fonctionner?
La solution est très simple. Elle est basée sur notre solution de digitalisation de la générosité publique. C'est que quand vous payez votre addition, par exemple, de 25 euros, le serveur vous tend le terminal de paiement. Un message apparaît en disant « Voulez-vous donner un pourboire ?» Si vous ne le souhaitez pas, vous répondez non en un clic aussi discrètement que votre de la rentrée de votre code confidentiel. Et ensuite, si vous choisissez de donner un pourboire pour remercier votre serveur, vous choisissez votre montant et en deux ou trois clics, et EO s'occupe de toute la gestion administrative du pourboire et de son bon reversement au serveur.
Et là, ça s'inscrit dans la volonté du gouvernement de défiscaliser ses pourboires pour essayer de doper un petit peu la rémunération des serveurs et des serveuses.
Bien sûr, c'est très important puisque, en fait, si vous voulez, le pourboire était en plein déclin. Et pourquoi il est en déclin? Parce que la digitalisation des paiements s'accélère. Ainsi, depuis le confinement, vous avez moins 23% de retrait d'espèces dans les distributeurs. Vous avez plus de 53% de paiements en sans-contact. Et donc, il est important de pouvoir redonner la possibilité aux Français et aux touristes de pouvoir remercier, comme ils le souhaitent, leur serveur. Et ce serveur, il a aussi besoin de cette rémunération complémentaire. Vous savez que dans la profession, il y a environ 150 000 postes qui ne trouvent pas d'employés. Et il est important de retrouver ce petit geste du quotidien qui aussi fait du lien.
Et vous savez bien faire cela, puisque vous êtes à l'origine des solutions de ce qu'on appelle des solutions de générosité. On l'a tous vécu à la caisse d'un supermarché. On met sa carte bancaire, on veut payer. Et là, on nous dit, est-ce que vous voulez arrondir, notamment pour faire un don à une association? Ce sont des solutions que vous avez participé à développer en France.
Bien sûr, tout à fait. Mais d'ailleurs, ces solutions trouvent beaucoup d'adhésion auprès des consommateurs. Aujourd'hui, il y a une flambée de la générosité publique. Et d'ailleurs, le pourboire est une forme de générosité. Et il y a une flambée de la générosité publique parce que les Français, quand ça va mal, ils donnent plus. Et donc, aujourd'hui, ça devient une coutume de pouvoir faire un petit don pour des défavorisés ou pour son serveur quand on fait un paiement. Mmh. Ça permet non seulement de donner du sens dans la vie quotidienne, mais ça permet aussi d'avoir cet acte de générosité qui nous rend tous heureux.
Vous le disiez, Guylain d'Alençon, tout ça s'inscrit dans le fait que l'on a moins d'espèces dans les poches et du coup on a moins souvent cette petite pièce que l'on avait l'habitude de donner aux serveurs et aux serveuses. Avec l'expérience que vous avez sur les dons, est-ce que vous êtes capable de nous dire si en numérique et comme ça en payant directement sur le terminal bancaire, on va donner plus ?
Oui, d'abord, on le voit très bien, parce qu'on a des taux très importants qui dépendent, en fait, du type du commerce. Mais c'est entre 20 à 80% des gens qui acceptent de faire un don. Et nous, on est très sereins, puisque sur ce parcours client du pourboire, on va avoir des taux très importants. D'ailleurs, les trois quarts des Français disent que si on leur permettait de faire un pourboire simplement, ils le feraient et ils donneraient plus.
Par contre, là, on va peut-être se sentir un tout petit peu plus obligé puisqu'on a le serveur juste à côté de nous au moment où on prend la décision.
Oui, sachant que en même temps, c'est pas très intrusif puisque quand vous rentrez votre code de carte bancaire, personne ne vous regarde. Mmh. Après, ce qui est très important aussi, c'est de pouvoir redonner cette place du pourboire, qui est un petit geste du quotidien, qui est important parce que il faut pouvoir remercier son serveur pour son talent, pour sa gentillesse, pour la qualité de l'attention qu'il porte à vous. Mmh. Et d'ailleurs, ces solutions, on est très confiants. Pourquoi ? Parce que ces solutions ont toute leur place aux États-Unis et en Angleterre, puisque vous savez que là-bas...
C'est un marché un petit peu différent, puisque là-bas, les serveurs et les serveuses sont en partie rémunérés au pourboire, et ils nous le font même savoir si jamais on n'a pas donné d'argent. C'est vrai que c'est une autre culture que la nôtre. En tout cas, ce qui est intéressant dans toutes les solutions que vous développez du côté d'EO, c'est que ça peut s'appliquer à plein de choses. Après, ces micro-paiements vont devenir de plus en plus indispensables au moment où, effectivement, on a de moins en moins de pièces dans nos poches.
Bien sûr, et d'ailleurs, EO est un acteur diversifié sur le sujet. Je ne sais pas si vous le savez, mais quand vous montez dans un bus à Rouen, vous pouvez acheter votre ticket sur un terminal de EO. Oui. Mais EO, c'est certes la digitalisation du paiement avec de la valeur ajoutée, mais c'est surtout la simplicité du geste. C'est la simplicité du geste, c'est comment payer simplement son ticket de transport, comment faire un micro-don, comment donner son pourboire en quelques clics, et que ce soit pas compliqué pour le restaurateur, et que ce soit très simple aussi pour le serveur, qui ainsi trouve son revenu complémentaire. Le paiement, c'est fantastique. La digitalisation du paiement est un mouvement que rien n'arrêtera. Après, comment rajouter de la valeur ajoutée dans ce paiement, grâce par exemple à la générosité, grâce au pourboire ou grâce au paiement de son titre de transport.
Une façon d'une certaine manière de donner du sens. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces détails. C'était Guylain d'Alençon qui est le PDG d'EO et donc vous développez avec BNP Paribas une solution, d'encaissement des pourboires par carte bancaire et ça va se développer dans les semaines à venir. Un grand merci d'avoir été notre invité. Nous, on se retrouve demain 22h20.
Merci Emmanuel, on vous retrouve également demain avec Carole Ferry de 13h à 14h pour La France Bouge sur Europe 1 et ce sera d'ailleurs demain un rendez-vous pour les gourmands puisque votre invité sera le patron de Jeff de Bruges, il sera bien évidemment question de chocolat.
C'était l'invité éco avec la Caisse d'Épargne, mobilisée pour être utile aux entrepreneurs et à l'économie. Caisse d'Épargne, vous êtes utile.
À 22h28 sur Europe 1, les unes de la presse pour demain matin, mardi, Paris et Londres se déchirent sur la pêche, titre Les Échos, avec une petite accalmie quand même ce soir, on vous en parle sur Europe 1. Paris retient son ultimatum alors que la France se dit toujours prête à interdire l'accès des pêcheurs britanniques aux ports français et à renforcer le contrôle des camions en provenance d'outre-Manche. Si Londres n'accorde pas davantage de licences de pêche aux bateaux français, les discussions vont donc reprendre demain en marge de la COP26. Emmanuel Macron ayant, pour ainsi dire, donné 24 heures de rallonge à Boris Johnson. Le Figaro, au chevet de l'hôpital, l'hôpital public à bout de souffle, puisque les fermetures de lits se multiplient, faute d'infirmiers en nombre suffisant. C'est une crise ancienne, oui, mais une crise aggravée désormais par la crise sanitaire. L'Opinion entend vous montrer comment Zemmour copie Macron face à Marine Le Pen et les Républicains. Le quasi-candidat, écrit l'Opinion, entend bien s'inspirer de cette campagne présidentielle victorieuse d'Emmanuel Macron en 2017. Les proches du chef de l'État l'ont bien remarqué. Et puis, avec la procréation médicalement assistée, la PMA, arrive une pénurie de sperme. La demande de dons est en forte hausse avec l'extension de la procréation médicale assisté. Libération vous propose des témoignages de donneurs confrontés au nouveau droit à l'accès aux origines. 22h30, bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. Nous sommes avec Olivier Delacroix, c'est l'heure de la Libre Antenne. Olivier, bonsoir.
Bonjour mon cher Alexandre.
Vous avez la forme, Olivier.
Je suis en pleine forme.
Et vous avez de très belles lunettes.
Je vous remercie. Je vous remercie.
Ce sont les vôtres cette fois-ci.
Non, ce ne sont pas les miennes. Julien m'a dit la même chose, mais ce sont des...
C'est une collection en fait. Hein.
Ce sont de petites loupes de mon choix.
Bon, elles vous vont très bien en tout cas.
Eh bien, je vous remercie. La semaine commence très bien, vous voyez. On se retrouve tout à l'heure pour votre flash. À tout à l'heure, Alexandre.